vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Justement, les questions, on n'en a pas beaucoup ce matin. Vous qui, peut-être depuis plusieurs dimanches, essayez désespérément de nous joindre pour poser une question à Philippe, eh bien c'est le moment, puisque peut-être période de vacances, il y a de la place à l'accueil au 02 99 67 35 35. Lucienne, qui est à Bron, dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Lucienne.
Bonjour.
Alors, vous avez une question pour Philippe?
Ben oui, parce que j'ai reçu un beau rhododendron hier, il a des beaux boutons prêts à éclore. Et puis, est-ce que je devrais le mettre en pleine terre quand il est comme ça?
Oui, surtout, mettez-le en pleine terre maintenant. Ne laissez pas regarder l'exemple de notre auditrice précédente.
Ouais, hein,
voilà, c'est, il faut surtout les rhodos, il fait pas froid pour un rhodo, hein, il n'y a pas de souci. Dans l'Himalaya, il fait encore plus froid que ça. Donc, non, mettez-le dehors, vous faites un beau grand trou de 6 fois le volume du pot, hein, 3 fois en surface, 2 fois en profondeur. Vous apportez un petit mélange de terreau de feuilles et éventuellement de tourbe. Et hop, vous le plantez, vous le mettez à l'abri des soleils les plus forts. Hein. Il ne faut pas que les rhodos prennent le soleil de midi. Par contre, le soleil du soir, il n'y a pas de souci, ils adorent ça. Et puis, vous l'arrosez copieusement. Et hop, il est parti pour 35 ans.
Ouais, carrément. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ça ne se taille pas. Je rappelle que les rhodos ne se taillent pas. Donc, on le met à l'endroit où il va pouvoir se développer tranquille, sans qu'on lui casse les pieds toutes les 2 minutes avec un sécateur.
Voilà donc, Lucienne, merci pour...
Oui, j'aurais envie de le mettre sous un noyer.
Sous un noyer, c'est peut-être pas une bonne idée,
alors,
ça aussi.
Oui, alors déjà, il ne faut pas être trop près du noyer, puis il faut savoir que le noyer, il envoie des substances, donc une hormone qui s'appelle la juglone, qui a un tempérament un petit peu désherbant. Alors, il aura peut-être du mal à démarrer après, une fois qu'il est bien, s'il est bien démarré, bien fort, il peut lutter contre la juglone, mais s'il est un peu chétif, il aura du mal à démarrer. Mais s'il n'est pas trop près du tronc, s'il est plutôt, on va dire, sous les branches, mais pas trop près du tronc, c'est jouable.
Voilà, donc ouais, faire attention, respecter. Il y a des plantes qu'il ne faut pas poser... mettre près d'un noyer d'une façon générale, parce qu'il y a eu pas mal de croyances sur le fait que le noyer
Les vivaces ont beaucoup de mal sous les noyers. Par contre, les arbustes, quand ils sont bien costauds, peuvent végéter, mais c'est vrai que les vivaces sont tuées par la juglone, sont tuées par l'hormone que le noyer envoie.
Super, merci beaucoup pour ces explications. C'est Elisabeth qui est avec nous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où?
De Saint-Malo.
Saint-Malo, voilà.
Avec un peu de soleil.
Mais vous avez de la chance à Saint-Malo.
Oui.
Et c'est vous qui allez en avoir vous allez en avoir le plus de la journée. Je regardais les cartes.
J'espère.
Et juste surtout, et juste au-dessus de chez vous, là, au-dessus de votre citronnier.
Ah oui, mais exactement là au-dessus. Oui, le pauvre citronnier, il est complètement dépouillé. Ah. Je l'avais mis quand il faisait froid dans la véranda non chauffée. Il était beau, il était magnifique. Il a fait beaucoup plus doux. Je l'ai ressorti à l'abri. J'ai dit bon, ben il fait beau, je vais le ressortir à l'abri. Et après, il a perdu toutes ses feuilles. Et là, il y en a plus une seule.
Oh là, il peut-être qu'il a pas aimé, quoi.
Parce que vous l'avez sorti... il a pas apprécié, je pense.
Vous l'avez sorti beaucoup trop tôt. Les citronniers, ça vient de Chine, ça vient d'Inde, ça vient de zones de la planète où quand il fait 10 degrés, tout le monde gèle de froid. Un citronnier, un oranger, un agrume à 10 degrés, ça a très très froid. À 12 degrés, ça commence à peine à s'en remettre, donc il faut attendre tranquillement au moins le 15 mai pour les sortir, et de préférence, c'est plutôt le début juin. Donc vous voyez, vous l'avez sorti trop tôt, il a pris un coup de froid. Il va pas vous aimer.
Je sais pas s'il a pris un coup de froid, mais il a pas apprécié la différence de température. Oui. Le pot, je l'ai isolé, je l'avais entouré avec un voile d'hivernage.
Oui, mais
et
ça,
il était
c'est
bien à l'abri du vent. Alors là, il lui reste 2 fleurs qui s'ouvrent. C'est tout.
Oui, ce que vous faites, vous enlevez les 2 fleurs, comme ça il n'y aura plus rien, hein, pour ne pas le fatiguer. C'est pas la peine qu'il aille se fatiguer à faire des fleurs alors qu'il n'a plus de feuilles. Il faut rappeler quand même que c'est dans les feuilles que se fabrique la sève qui nourrit les plantes. Donc si la plante n'est plus capable de se nourrir, on ne va pas l'obliger en plus à faire des fleurs qui les fatiguent énormément. Donc vous supprimez les 2 fleurs, vous le remettez dans la véranda, hein, vous l'arrosez modérément parce que vu qu'il n'a plus de feuilles, il n'a plus d'évaporation, donc il ne faut pas arroser au risque de faire pourrir les racines. Donc, il faut garder la terre juste fraîche, surtout pas mouillée. Donc là, il faut un doigté de jardinier avec l'arrosoir. Il ne faut pas en mettre trop à la fois. Et puis, normalement, il va redémarrer. Mais voilà, il faut arrêter de jouer au yo-yo avec vos plantes, que ce soit les rosiers, que ce soit les orangers. Ce n'est pas fait pour rentrer et sortir 25 fois. On les sort une bonne fois, mais que quand ils sont dans des bonnes conditions. Donc, pour l'oranger, c'est des conditions chaudes. Pour le rosier, on s'en fiche un petit peu parce que ça résiste à moins 25. Mais voilà, il faut pas passer son temps à les rentrer, les sortir, les rentrer, les sortir. Il n'y a rien de plus fatigant et de plus stressant pour la plante.
Voilà donc pour ces conseils. Elisabeth, on espère que ça va repartir. Suivez les conseils de Philippe, vous coupez. Et on va souhaiter que ça reprenne. Evelyne est à Monteneuf. Pardon. Bonjour Evelyne.
Bonjour, voilà ma question. J'ai acheté l'année dernière un lilas des Indes qui était assez beau. Il faisait à peu près une soixantaine de centimètres. Il y avait des feuilles, il y avait des gros bourgeons, je sais pas comment on appelle ça. Et donc je l'ai planté, je l'ai coupé. Il y avait marqué de le tailler, donc je l'ai rabattu pas tout à fait, mais presque la moitié. Et enfin, il a perdu après toute. On a mis de la terre universelle au pied. Il a perdu toutes ses feuilles et il a tout perdu du tout. Et là, il était tout sec. Il y avait juste des petites branches toutes sèches. Je me suis demandé s'il n'était pas mort. Et là, il me fait des minuscules bourgeons. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il se renforce un peu, parce que est-ce
ravigoter, que c'est normal quoi. Ravigoter le lilas des Indes. Alors.
Surtout ne faites rien. Laissez-le se ravigoter tout seul. Le lilas des Indes, effectivement, alors ça se taille, normalement ça se taille maintenant. La taille, c'est en général la mi-avril pour le lilas des Indes. Donc là, vous l'avez déjà taillé un petit peu tôt. Donc s'il redémarre, tant mieux. Fichez-lui la paix, carrément. Laissez-le redémarrer. Ne faites rien. S'il est en pleine terre, les pluies régulières suffisent pour l'arroser. Vous avez mis du terreau universel au pied, c'était pas forcément une bonne idée. Ça se met plutôt en surface, surtout pas au niveau des racines. Sur les racines, on remet de la bonne terre, ça suffit largement. Et puis, il va redémarrer. Si vous l'avez mis à un bon endroit, vous aurez peut-être la chance d'avoir des fleurs. S'il y a des courants d'air ou s'il n'a pas assez de soleil, il vous fera que des jolies feuillaisons automnales. Et il aura sa jolie écorce, pour l'hiver. Mais les fleurs, là, s'il n'a pas assez chaud, il n'y aura pas de fleurs.
Voilà, donc bien réfléchir à tout ça. Merci Evelyne pour votre question. Vous avez bien fait de nous appeler. Dans un instant, on va parler tomates avec Gérard. Et puis vous arrivez au 02 99 67 35 35 pour le Jardin Bleu avec Philippe Meunier.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux, je sais. Je le serai un jour. Tu peux pas quitter la terre. Tu peux juste en faire le tour. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai fou. J'aurais fait le tour de la terre.
J'aurais rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves. Un jour je serai moi, j'aurais assumé toutes mes fautes. Je sais, je suis différent, donc au final je suis comme les autres. Un jour je serai sage, j'aurais fini de faire le con. J'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon. Un jour je serai mort, j'aurai fait le tour de mon âge. Une plaque avec mon nom, une place dans les nuages.
Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, j'aurais réglé mes problèmes. J'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour je serai moi-même. J'aurais trouvé le sourire. J'aurais réglé mes problèmes. J'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
Sur la lune, Big Flo, Oli, sur France Bleu Armorique.
France Bleu. Le Stade Rennais est qualifié pour la finale de la Coupe de France. La semaine prochaine, sur France Bleu Armorique, à 6h20, dans le jeu de l'éphéméride, endossez les couleurs rouge et noir et gagnez la boîte de jeu spécial foot. Jouez en famille dès 7 ans, choisissez votre équipe, combinez les cartes et à vous la victoire. À quelques jours de la grande finale, gagnez la semaine prochaine la boîte de jeu aux couleurs du Stade Rennais Football Club à 6h20 sur France Bleu Armorique.
Samedi 27 avril, PSG Rennes. Finale de la Coupe de France. France Bleu Armorique avec les Rouges et Noirs, avec les supporters.
Ah, Chantal là-dessous. Vous allez encore nous parler d'Akena, je suppose. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres?
160 000 vérandas.
Non, mais vous ne seriez pas un peu de Marseille, vous?
Non, je viens du Nord. Et Akena de Vendée. D'ailleurs, c'est là que leurs vérandas sont fabriqués. Ça, c'est pas du blabla. Déjà 160 000 vérandas, vous vous rendez compte? Ils savent de quoi ils parlent chez Akena. Ah, oui. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
France Bleu Armorique.
France Bleu.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Avec les questions qui vous tracassent, qui vous font mal dormir en se disant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait sur cette plante, etc. Eh bien, aucun problème. Philippe est là pour veiller à la santé de nos jardins et de nos plantes. Gérard, à Pleurtuy. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
Je viens de planter une dizaine de pieds de tomates là, et on m'a dit qu'il fallait laisser les gourmands qu'on les coupe, les laisser au pied pour que ça renforce les tomates, j'en sais rien.
Alors,
savoir s'il faut les laisser au pied ou pas.
Les gourmands, hein, c'est ça, les gourmands qui sont au pied, il faudrait les laisser.
C'est ça, au fur et à mesure qu'on les taille, quoi.
D'accord. Alors.
Non, alors il y a deux choses. Il y a deux choses. Il existe des tomates qu'on appelle à port déterminé, c'est-à-dire qu'elles vont faire un certain nombre de bouquets de fleurs et pas plus. Et ces tomates-là, on peut ne pas les tailler, on peut leur laisser les gourmands se développer parce qu'ils vont se développer de manière très contrôlée par la plante. Hein, et il suffit simplement, ça va pousser comme un petit buisson. De temps en temps, il faut légèrement les tenir, mais normalement, ces plantes-là n'ont pas besoin d'être taillées, on les laisse se développer toutes seules. Et puis, il existe, et c'est la plus grande le plus grand nombre, des tomates à port dit indéterminé, c'est-à-dire qu'elles poussent, tant qu'il fait chaud, elles poussent, et puis si on laisse se développer toutes les branches, eh bien ça devient complètement anarchique. S'il n'y a pas de tuteur, ça se casse la figure par terre, donc les tomates se retrouvent au niveau du sol, elles pourrissent, les branches pourrissent, etc., etc. Donc, si vous êtes face à des plantes à port déterminé, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez ne pas les tailler. Si vous êtes avec toutes les autres tomates, il faut tailler, il faut enlever les gourmands, il faut tuteurer la plante de manière à ce qu'elle se développe correctement. Donc voilà, il y a vraiment deux choses, et donc il ne faut pas se tromper de quel type de tomates on parle.
Voilà, donc vous avez à la fois tort ou raison, selon bien sûr la variété. Merci Gérard pour cette question intéressante. Françoise, à Dol de Bretagne, bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai un problème. On m'a offert un buste magnifique, un plein bagot.
Oui, d'accord.
Non,
c'est pas un limbago, rien
à voir. Non, c'est pas un limbago. C'est d'ailleurs grâce à ça que je reconnais, que je me souviens du nom.
Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce plein d'abou?
Il est très beau. Il a été très beau tout l'été. Ouais. Il est monté à 1m50. Il est dans un pot en terre. Et là, je ne sais pas ce qu'en faire parce qu'il est tout moche. Il a les branches sont dégarnies. Est-ce que je dois les couper? Je ne sais pas ce que faire. Est-ce que c'est un arbuste qui repart du pied? Je ne sais pas. Alors j'attends beaucoup de conseils de votre part.
Ah là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Maître Philippe va pouvoir vous aider? Oui.
Oui. Alors donc déjà le plein bagot, son petit nom complet, c'est plein bagot. Capensis, ça veut dire qu'il vient du Cap. Et ouais. C'est pas du Cap de Bonne-Espérance, c'est de la ville du Cap, en Afrique du Sud.
C'est chaud là-bas.
Donc,
chaud.
Voilà, c'est un petit peu pas loin d'être tropical. Donc, c'est une plante qui aime la chaleur. Donc, qu'elle fasse la tête en ce moment, c'est tout à fait logique, et c'est même plutôt rassurant, je dirais. Donc, c'est une plante de terrasse, une jolie petite grimpante, avec, on l'appelle aussi la dentelaire du Cap, donc avec des fleurs bleues. Alors, il y a soit bleu pâle, soit blanc. J'aime bien la variété bleu pâle plutôt, mais c'est la variété classique. Et effectivement, normalement, elle fait un petit peu la tête maintenant, bien qu'il n'y ait pas eu de très fortes gelées, mais bon, c'est logique. Alors, vous attendez encore un petit peu, soyez patiente, attendez encore une bonne quinzaine de jours pour la tailler, parce que il faut être sûr que tous les vilains coups de froid, genre celui qu'on a en ce moment, ou coups de frais, on va dire, soient passés, de manière à ce que quand vous allez la tailler, ça va lui stimuler la végétation, elle va redémarrer si les températures le permettent, et du coup il faut pas qu'elle ramasse un coup de gel après, sinon elle va faire la tête. Donc vous attendez encore une bonne quinzaine de jours, et à ce moment-là effectivement vous la taillez assez près du sol, vous enlevez déjà tout ce qui est mort, et puis tout ce qui est pas très beau vous le ramenez à, on va dire, 10-15 cm au-dessus du sol. Vous faites un léger surfaçage, c'est-à-dire que vous enlevez dans le pot délicatement, sans abîmer les racines évidemment, vous enlevez toute la terre de surface, la vieille terre de l'année dernière, et vous remplacez par un terreau classique, lambda, avec pas trop d'engrais, voire pas d'engrais du tout si c'est possible. C'est de plus en plus difficile à trouver des terreaux sans engrais. Je sais pas pourquoi, le terreau ça suffit et se suffit à lui-même, mais évidemment en mettant de l'engrais dedans, ça permet de le vendre plus cher, mais ça n'est pas forcément intéressant pour les jardiniers malheureusement. Donc voilà, si vous en trouvez un sans engrais, mettez-en un sans engrais, et puis mettez-le donc bien protégé des vents d'est et du nord, sur la terrasse, bien plein sud, parce qu'il aime bien la chaleur, et il va redémarrer, et il va vous ravir une nouvelle fois pendant tout l'été.
Et ben voilà, le plein bagot ou dentelaire du Cap. Voilà donc pour les précisions, merci Françoise. Nous allons à Mal-Étroit avec Janine. Bonjour Janine.
Bonjour messieurs.
Qu'est-ce qui vous arrive, Janine?
Alors, moi, c'est une plante invasive, parce que qui est on appelle le bouillon blanc, mais il fleurit jaune, en principe.
D'accord.
Et qui a envahi une cour où se trouvaient les poules, probablement que ça a été laissé s'égrener. Mmh. Et maintenant, 6 mètres sur 3, nous avons alors un champ.
Ah oui.
Et comme c'est avec des racines très très profondes, et c'est très difficile de les arracher.
Donc,
alors, je ne sais pas comment nous allons les détruire.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions?
Je crois que c'est pire que le chardon.
Bon, alors, c'est une plante invasive, en fait, qui a pris place. Non, ce n'est pas invasif.
Une plante invasive, bon. Déjà. Parce que plante invasive, ça veut dire une plante exotique, venant d'ailleurs, qui s'installe chez nous, et comme elle arrive sans ses ravageurs, sans ses maladies, elle peut se développer de manière anarchique. Et
au détriment d'autres, d'ailleurs.
Alors que le bouillon blanc, c'est une plante bien de chez nous, hein, bien européenne, depuis très très longtemps. C'est une plante qui fait partie de ce qu'on appelle les plantes béchiques, c'est-à-dire les plantes qui calment la toux. Hein, c'est une plante médicinale. Elle n'a rien d'envahissante non plus, parce que on peut appeler aussi donc les plantes de chez nous, mais qui ont tendance à envahir tout, on les appelle les plantes envahissantes, hein, d'accord ? Il faut bien faire attention aux mots. Et le bouillon blanc n'est pas une plante envahissante. C'est une plante qui est plutôt sympathique, qui pousse dans les sols chauds, drainants, qui fait un grand cierge, on l'appelle aussi le cierge de Notre-Dame, ça tombe bien, hein, des grandes ampes florales avec des jolies fleurs jaunes dessus. Et je vous dis, c'est une plante médicinale. Et en plus, elle attire un très joli... Enfin, le papillon n'est pas très très joli, mais la chenille est magnifique. Une grosse chenille d'un bleu turquoise absolument superbe, avec des points, si ma mémoire est bonne, des points noirs et orange. C'est vraiment une très très belle chenille qui bouffe tout le bouillon blanc. Donc voilà, si vous en avez qui viennent dans votre jardin, ben laissez-les manger le bouillon blanc. Alors sachant que le bouillon blanc, c'est une plante qui est bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle ne vit que 2 ans. D'accord. La première année, elle fait sur le sol une jolie rosette de belles grosses feuilles, duveteuses et gris et vraiment très agréables. Et c'est le moment où elles sont les plus fragiles. Si on les coupe à ce moment-là, elles meurent. Donc, vous voyez, c'est pas si envahissant que ça. Ouais. Et la deuxième année, elle fait une ampe florale, donc qui peut monter presque 2 mètres, hein, si elles sont dans une terre suffisamment riche. Et là, effectivement, si on laisse la ampe florale se développer, il y aura des fleurs et derrière les fleurs, en général, il y a des graines. Et derrière les graines, en général, il y a toute une explosion de petites plantules. Donc, c'est vraiment la première année, quand la plante fait juste une rosette au sol, qu'il faut lui mettre, si vraiment elle gêne, lui mettre un coup de binette sur le coin du cigare. Et dans ces conditions-là, l'affaire
ça repart,
est réglée.
Voilà, ça repart plus. Il faut éviter les graines. Voilà. Quoi. Ouais. Voilà.
Exactement. Donc là, ce qu'il faut, c'est passer la binette, attendre tranquillement que le stock de graines, parce que forcément, s'il y a beaucoup de plantes qui ont grainé, il y a un stock de graines dans la terre, donc attendre que le stock de graines s'épuise, et puis appeler aussi des gens qui ramassent des plantes médicinales pour leur demander si c'est pas
si ça les intéresse
parce que du coup c'est intéressant, je vous dis, pour faire entre autres des tisanes contre la toux, mais il n'y a pas que ça, mais je me souviens plus de tout, donc voilà, c'est pas tout dire des bêtises, donc voilà, et c'est
les inflammations,
regarder quelques-unes parce que c'est vraiment une très belle plante, très décorative et très graphique, parce qu'il y a ce côté vertical dans le jardin qui est plutôt sympathique.
Voilà, ça guérit aussi, je le vois, les inflammations des voies respiratoires, donc adoucissante. Donc il y a plein de vertus. Bah voilà, vous savez que c'est pas compliqué à éradiquer entre guillemets, mais si vous pouvez aussi les utiliser, intéressez-vous à ces plantes qu'on trouve peut-être pas toujours belles, qui sont pas là où on voudrait, mais qui ont quand même un rôle pour la vie sur la planète. On va faire une pause ? Oui, on va faire une pause, puisqu'après, on a Gisèle qui nous attend avec des 1000 pertuis qui sont touchés par la rouille, avec François qui a des carottes aux formes bizarres, ou Yolande qui a une orchidée, qui attrape des cochenilles.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Pour l'instant, un souvenir extrait de la comédie musicale Les 10 commandements, vous l'avez reconnu, c'est l'envie d'aimer.
C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant, qu'il vaut la peine.
Commandements sur France Bleu Armorique.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et tout le monde est bien réveillé. En début d'émission, on sentait que c'était encore la grasse matinée. Mais là, les questions fusent de tous les côtés. Et on va prendre la direction de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine avec Gisèle. Bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour Philippe.
Alors Gisèle.
Alors voilà, j'ai un millepertuis qui a, sur un talus, il a à peu près une quarantaine d'années, et mon millepertuis, il a la rouille tous les ans. Et il a plein de feuilles mortes. Je voulais savoir si les feuilles mortes, je peux les mettre dans le compost.
Alors, oui, alors si, avec un grand S, si et seulement si, vous brassez votre compost régulièrement, que vous l'arrosez régulièrement, c'est-à-dire que vous le gérez bien, le compost, donc bien géré, c'est un fermenteur biologique énorme, qui donc est capable de manger, si je puis dire, les champignons, les maladies. Si c'est juste pour mettre sur le compost et ne ni arroser, ni brasser, ni rien faire du tout, là, il y a un risque de propagation de la maladie. Donc si vous faites un vrai compost, allez-y, il n'y a pas de souci. Si c'est juste un tas où on met des végétaux et on attend que ça se passe, eh ben c'est plutôt pas une bonne idée. Dans ce cas-là, vaut mieux, même si j'aime pas dire ça, mais il vaut mieux l'emmener en déchetterie.
Voilà pour les précisions. Merci Gisèle pour votre question. Bonne journée à Châteauneuf. On va à Saint-Quay-Portrieux maintenant retrouver François. Bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour Philippe. Voilà, donc moi j'ai des carottes qui sont belles, mais qui ont des formes bizarres et qui font qu'elles sont souvent pas faciles à éplucher en fait. Donc je viens d'envoyer une photo à Philippe sur son mail, philippe@lesjardinsnaturels.com, je sais pas s'il peut la voir.
Ouais, on va essayer de voir ça, mais vous nous prévenez là, en direct.
Faudrait que je rappelle dimanche prochain.
Mais non mais allez-y.
Daniel a dit qu'il y avait la place, j'ai dit tiens je vais poser la question.
Oui mais vous avez raison, mais donc ce qui vous étonne c'est la forme des carottes.
Bah oui, parce que je grise bien ma terre, je mets dedans un peu de sable, j'écrase les mottes à la main, et la terre, il n'y a pas de gros cailloux, il n'y a rien qui gêne.
J'ai la photo.
Ah, ça y est, la photo vient d'arriver.
Voilà. Alors, c'est des carottes que vous semez vous-même?
Oui, c'est des carottes que je sème moi-même, oui. Et bon, je change de variété de temps en temps. La dernière, c'était des carottes la race Amsterdam. Mais des fois, c'est d'autres.
Et elles font tout ça systématiquement?
Non, je dis 40 à 50%. Et des fois, j'ai deux ou trois carottes en une parce que ça part assez du haut du collet quand même, quoi. C'est pas comme si j'ai trouvé quelque chose, un caillou, puis qu'elle se divise en cours de route, ça part du collet. Des fois, j'imagine des carottes jumelles ou siamoises.
Ouais. Je sais pas. Donc en tout cas, voilà, elles sont bizarres, mais elles sont bonnes quand même.
Ah, elles sont très bonnes. Il y a de la productivité.
Ouais. Non, mais c'est ce qui me pose question, c'est au niveau peut-être du semis. Je vois pas comment ça peut démarrer. Effectivement, oui, j'imagine les carottes en voyant la photo là. Oui, c'est pas. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose par rapport au semis, un semis que vous feriez trop profond ou.
Ouais, il y a plein de raisons, c'est difficile de, ouais, d'analyser
comme
ça.
Il peut y avoir pas mal de raisons, hein. Donc, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas, peut-être pas, donc vous dites que vous préparez la terre très finement et de manière très, comment dirais-je, appliquée. Donc, je me dis que derrière, si c'est pas la préparation du sol, c'est le semis et c'est à ce moment-là que vous faites une erreur. Alors maintenant, laquelle, je ne sais pas. Il faudrait que vous réessayiez de faire plusieurs choses différentes au niveau des hauteurs, surtout. Faire attention que la carotte, il ne faut surtout pas l'enterrer. Hein, on la sème sur le sol et on met dessus une toute petite couche d'un mélange. Moi, en général, je mets sable et un tout petit peu de compost. Hein, trois quarts de sable, un quart de compost. Et l'intérêt du sable, c'est de délimiter les rangs, comme ça on sait où ils sont et on peut biner entre les rangs, et puis ça suffit, ça fait une couche vraiment, il faut mettre à peine un millimètre dessus, hein. Donc c'est vraiment très très léger. Alors c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a un problème, c'est peut-être au niveau du dédoublement où il se met peut-être trop dense, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, mais vous dire quoi exactement, ouais, je sais difficile. Pas.
Bon, en tout cas, voilà, et puis vous ne faites pas peur aux carottes la nuit, peut-être c'est pour ça, ça les stresse. Yolande à Lamballe, bonjour Yolande.
Oui. Bonjour Daniel, bonjour Philippe. Moi je voulais savoir, avant j'avais beaucoup d'orchidées qui n'avaient jamais de problème et maintenant quand j'ai des orchidées, elles ont toujours des cochenilles. Ouais. Pourquoi ?
Alors pourquoi ? Il y a de fortes chances que, bon, déjà il y a eu ce qu'on appelle une contamination primaire, c'est qu'un beau jour elles sont arrivées, et donc une fois qu'elles sont arrivées, ben, elles ont une sale tendance à rester là, si on n'élimine pas avec beaucoup de soin les différents
endroits. On les lave, on essaye d'enlever toutes les cochenilles qu'il y a partout, mais ben, ça revient.
Alors, il y a ça d'une part, et puis d'autre part, surtout, ce qu'il faut regarder, et ce dont je parle régulièrement, c'est l'humidité de l'air. L'humidité de l'air est très, très importante pour lutter contre les cochenilles. Si vous avez un air trop chaud, trop sec, vous allez avoir des cochenilles. À partir du moment où votre air est aux alentours, autour des orchidées, en tout cas, aux alentours de 65% d'humidité, dans ce cas-là, vous avez une réduction du risque de cochenille qui est très très importante. Donc ce qu'il faut absolument, c'est autour des plantes vertes d'une manière générale, il faut créer une bulle d'humidité, et donc il y a plein de solutions, soit on laisse une soucoupe qu'on remplit d'eau tous les jours et pour que ça s'évapore, ou soit vous achetez, il y a des petits des espèces de petites fontaines avec brumisation, ça coûte pas très cher, certaines sont très jolies, et en plus si on met un petit programmateur, bah ça permet de pas gâcher d'énergie, et ça vous crée cette bulle d'humidité, ce qui permet aux plantes d'être bien, d'être comme si elles étaient dans leur forêt tropicale d'origine, et ça donc limite énormément les attaques
particulièrement des cochenilles. Merci Yolande, désolé pour Evelyne, on n'aura pas le temps pour l'histoire du camélia, rappelez-nous dimanche prochain, mais très tôt, hein, ça commence à 9h, à 10h c'est fini. Et puis petite idée avant de se dire au revoir, Philippe.
Oui, alors Rouen, c'est donc aujourd'hui, donc la ville de Rouen depuis 2008 fait une fête pour sensibiliser les gens sur l'environnement et le jardinage, et donc il y aura à la fois une bourse d'échange de plantes, évidemment, les plantouilles et greffous qui feront normalement forcément une démonstration de greffage, il y aura une association de piégeurs de frelons, bon là pour frelons asiatiques, bon je suis moins partant, ouais. mais par contre une démonstration de l'écopâturage, de l'exposition d'un véhicule hydrogène, ça c'est pas mal.
Pas mal, ouais.
Ouais, ça, je suis partant aussi. Une randonnée informative, enfin, bref, il y aura plein de choses, c'est à Rouen, donc allez-y faire un tour, parce qu'à mon avis, c'est plutôt intéressant. Et puis des caisses du livre Pommes de Bretagne de monsieur l'évêque Guy, voilà, et puis des producteurs locaux, voilà, bah, ça fait une bonne promenade.
Bah ouais, c'est une bonne idée. Chose, hein. Eh ben c'est super, merci.
Mais c'est une petite laine quand même. Hein.
Ah, petite laine quand même. Merci, ouais, Philippe, allez. Prenez votre petite laine, à dimanche prochain.
À dimanche prochain.